Merci Mathieu Laurent, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Le vert prairie, c'est la couleur à la mode en ce moment et à l'occasion de la COP21, certains journaux ou revues ont teinté de vert leur couverture. Notre monde de demain, le sort de l'humanité, se joue en ce moment. Cela va être difficile, mais nous allons réussir, expliquer le président américain Barack Obama à l'ouverture de la conférence sur le climat lundi dernier. Il est question de parvenir à un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique à la fin du siècle. Au-delà, c'est l'inconnu. COP ou flop, titré Libération cette semaine. Pour le Parisien, une photo de famille des principaux dirigeants de la planète et les discours ambitieux ne font pas un accord. Les négociations seront rudes. Face à des questions aussi graves, quelle couverture médiatique de la COP21 et plus largement, quelle place les questions environnementales occupent-elles dans les médias? Les journalistes en font-ils trop ou pas assez? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Walter Bouvet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et directeur de la publication de la revue Terra Eco, Patrick Pirot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la rubrique Écologie à Politis et vous avez publié aux éditions Belin la transition énergétique. Avec nous également François Siegel, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de la revue Oui Demain et en duplex du Bourget, véritable tour de Babel avec des journalistes et des délégations venues du monde entier, Sylvain Desjardins, correspondant à Paris de Radio-Canada et Véronique Roberotte, la voix de l'environnement sur France Culture. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Notre regard extérieur aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue de l'émission. Bonjour Mariette.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui Ariane Herbé. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
2 degrés, c'est la limite du réchauffement de la planète à ne pas dépasser. Au-delà, les scientifiques prédisent les pires scénarios.
Quelles sont mes émissions de CO2 et comment faire pour les réduire?
Montée des eaux, phénomène météorologique extrême, 250 millions de réfugiés climatiques en 2050.
Combien de tonnes de gaz à effet de serre sont-elles émises pour satisfaire nos besoins de consommation?
Il faudra réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Lorsque nous remplissons notre caddie, quelles conséquences cela a-t-il?
Les pays riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an dans un fonds vert d'ici 2020.
Consommer moins de viande, privilégier les circuits courts et de qualité.
On est encore très loin du compte.
Le secret des sources.
Voilà montage réalisé par Vincent Abouchard et qui illustre comment la presse s'est emparée de ces questions. Cela va des réfugiés climatiques à la façon de remplir son caddie au supermarché pour combattre le réchauffement. Walter Bouvet de Terra Eco, vous publiez un spécial climat avec en couverture la Tour Eiffel, les pieds dans l'eau, et avec ce titre, le jour d'après, sauf si. Est-ce que la presse joue son rôle, selon vous, durant cette COP21 en informant, en alertant, en proposant des pistes et des solutions?
Oui, complètement. D'ailleurs, petite référence sur la bande-annonce qu'on vient d'écouter,
ouais.
Que je trouve monumentale, en fait, un peu à l'image du sujet. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une forme d'écrasement, d'un empilement de chiffres, d'enjeux. Et c'est à la fois la force et la faiblesse de ce sujet, c'est qu'il en contient tellement qu'on a envie de tout aborder, de tout expliquer, ce qu'essaie de faire la presse en ce moment, avec des infos quotidiennement. Et donc oui, je pense qu'elle joue son rôle, parce qu'elle est présente, elle occupe le terrain, c'est ce qu'on lui demande, elle occupe ce terrain-là, il y a de la vulgarisation, on en parle. Ce qu'on peut regretter, c'est que, comme on le voit souvent sur des phénomènes d'actualité, il y a une forme d'hystérisation de l'information, toujours ce phénomène de bulles médiatiques qui se succèdent, on en prend une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je ne suis pas certain qu'à long terme, ça permette de donner du sens à l'information pour les lecteurs. Et ce que je crains surtout, pour avoir déjà vécu Copenhague, où on avait assisté un peu à la même déferlante médiatique il y a donc 6 ans, c'est que tout ça s'éteigne, ou en tout cas redescend de plusieurs étages à partir du mois de janvier, d'autant qu'il y a quand même 2-3 sujets électoraux et sécuritaires qui nous occupent par ailleurs.
Oui, la crainte, c'est que ça mêlé avec
voilà, dans lesquels on peut trouver des connexions bien sûr, mais je crains que tout ça je suis très heureux de ce qui se passe médiatiquement, il y a un vrai écho,
c'est sur la durée
et on va en profondeur, mais sur la durée c'est là qu'il va falloir tenir.
François Sigel de la revue Oui Demain, avec également une couverture qui interpelle, vous vouliez réagir?
C'est vrai que la COP21 devait être la grande affaire effectivement du quinquennat de Hollande, ça devait être le tournant, on va dire forcé de... Or COP21, il n'avait plus beaucoup de ressources effectivement pour tenter de renverser la situation, et puis malheureusement sont arrivés les attentats, et puis malheureusement il y a une élection dimanche, enfin malheureusement ça dépend pour qui, ouais. Voilà, ça dépend de l'endroit où on se place par rapport aux liens qui sont faits, mais globalement qui occupe effectivement le devant de la scène médiatique, et c'est vrai que bon, il y a énormément autour de la COP21 puisque la presse est comme ça, je veux dire, la presse elle se lance, elle fonctionne par agenda, et puis tout le monde se déclenche effectivement en fonction d'un agenda. Je pense que s'il n'y avait pas eu effectivement principalement les attentats, s'il n'y avait pas eu la guerre contre Daesh, il n'y avait pas eu la mobilisation générale quoi de la société française, effectivement la COP21 aurait eu encore beaucoup plus de retentissement qu'elle en a aujourd'hui.
Juste un mot sur la couverture de Oui Demain à laquelle je faisais référence. J'en parlais, on voit une photo étrange. C'est un baigneur chinois, François Sigel.
Oui, c'est un monsieur qui est équipé d'une combinaison intégrale, y compris un masque, parce qu'effectivement, dans la mer de Chine, c'est tellement infesté de méduses, qu'il ne peut plus se baigner. Et pourquoi il y a des méduses? Parce qu'il n'y a plus de poissons. C'est un peu comme les pirates en Somalie, sur les côtes de Somalie. Pourquoi il y a des pirates? Parce que c'est des anciens pêcheurs. S'il n'y a plus de poissons, donc les pêcheurs ne peuvent plus travailler, ils sont devenus pirates. C'est hélas des conséquences, effectivement, de la surpêche, effectivement, et de la dégradation de tous les écosystèmes.
Patrick Pirot de Politis. Alors, il y a profusion d'articles, c'est vrai, et de reportages dans la presse à l'occasion de la conférence sur le climat. Est-ce que nous sommes dans un effet d'auto-entraînement de la presse, un peu ce que disait Walter Bouvet, ou est-ce que c'est un effet de mode, ou s'agit-il d'un effet plus profond et durable, si j'ose dire, dans les médias? Il y a un intérêt des auditeurs, des lecteurs et des téléspectateurs, du public pour cette COP.
Il y a un intérêt, je serai prudent sur la nature de cet intérêt. Il y a concomitance de plusieurs événements qui contribuent à donner une forme de relief à cet événement, à la COP21. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a eu cette question, va-t-elle avoir lieu? Oui, elle va avoir lieu. Dans quel régime? Sous quel niveau de sécurité? Ce qui a contribué également à faire venir un certain nombre de chefs d'État. Donc, il y a un effet concomitant avec la situation sécuritaire que nous vivons, qui a contribué à faire monter l'intérêt pour cette COP, mais peut-être pas uniquement pour son contenu climatique. Cela dit, c'est assez difficile de le voir aussi, parce que il est bien possible que face au péril que cela représente, eh bien, la question sécuritaire, on voit s'articuler des questions qui ne l'étaient pas auparavant, c'est-à-dire le flot des migrations, avec la question des attentats, et la question climatique, si elle se résout dans le bon sens, peut laisser à penser un certain nombre de chefs d'État que l'on va également traiter des questions sécuritaires chez eux, mais aussi des questions de souveraineté alimentaire ou des questions de d'agriculture dans les pays qui sont pauvres. Donc tout ça joue pour renforcer cet intérêt-là. Et je constate surtout qu'on a une sorte de rattrapage. Pendant 6 ans, il y a eu une pause, un trou noir. Les médias, comme vous le disiez, les médias suivent ce qui se passe, l'actualité. Du côté des politiques, du côté du monde associatif, on n'a plus parlé de climat parce qu'il y a eu cette stupéfaction à la suite de l'échec de la conférence de Copenhague en 2009. Et là, ça revient en force. Pourquoi? Parce que la question climatique s'impose naturellement en raison des catastrophes climatiques à répétition. Et puis maintenant, ce que l'on constate, c'est-à-dire le lien non seulement avec les questions de migration, mais aussi avec les questions de terrorisme. Il y a des études qui montrent que du côté de la Syrie, du côté du nord-est du Nigeria, l'installation de Daesh et de Boko Haram
a déstabilisé
à voir avec le fait que des sécheresses ont déstabilisé la région et ont permis l'installation de ces groupes.
Ouais. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Walter Bouvet, vous vouliez réagir.
Je veux dire qu'il y a quand
et
même
on va bourger ensuite.
Si je partage votre analyse, je mets un bémol dans le fait que les rédactions qui sont quand même en silo, c'est-à-dire avec des rubriques, des thématiques, et donc pas outillés forcément, en tout cas les rédactions traditionnelles, pour faire de la transversalité et faire des connexions entre tous les sujets. Je suis pas sûr que ça facilite ce travail de mise en connexion du terrorisme avec le changement climatique, du changement climatique avec le phénomène des réfugiés, etc., etc. Au-delà de l'événement COP, où forcément là on a plus de temps, donc le discours journalistique peut se déployer davantage et aller un peu plus en finesse. Mais dans ce rapport à la complexité de cette question, qui était un sujet sociétal avant tout, avant d'être une thématique environnementale, ce temps-là se referme et se restreint dès qu'on quitte un agenda médiatique très fort, qui est aussi dû, ne nous leurrons pas, au fait que tout simplement, ça se passe près de chez nous, ici, à Paris, en France, avec une puissance invitante qui est l'État français.
Dans un contexte particulier, avec 150 chefs d'État et voilà, 196 délégations.
Ça produit un phénomène de loupe, de grossissement médiatique. Je ne suis pas sûr que si la COP 21 se déroulait à Marrakech, comme va se dérouler la COP 22 l'an prochain, on aurait le même phénomène médiatique.
François Sigel, et après on va bouger.
Ouais, on reviendra peut-être sur le fait que c'est quand même une COP importante.
Une
COP, je dirais, anodine, effectivement, dans l'histoire. Moi, j'ai plutôt... je vais pas parler au nom de ceux qui sont autour de la table, mais on est des observateurs du monde qui change. Regardez le paysage français, il y a peut-être 6 mois, encore un an, on va dire les médias mainstream nous présentaient effectivement le gaz de schiste comme étant la solution à tous nos problèmes, tous nos maux. Voilà, c'était le renouveau de l'économie française. Je vois plus qui aujourd'hui oserait encore avancer ce genre de d'argument. J'ai plutôt l'impression.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour en grâce du nucléaire à l'occasion de cette COP. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais
que les mentalités sont en train de changer, quoi. Les mentalités sont quand même en train de changer parce que globalement, quand même, le renouvelable, la transition énergétique marque des points quand même partout dans le monde. Et globalement, cette COP arrive quand même dans un contexte où quand même on se dit que globalement, ça serait quand même bien qu'on réinvente pas éventuellement le 20e siècle. Qu'on essaye de reconstruire un petit peu sur ses décombres et qu'on essaye quand même de passer à autre chose, quoi. Et je crois que là, il y a quand même un climat favorable.
Alors, on va aller au Bourget, donc retrouver Véronique Robérotte, spécialiste environnement de France Culture, et Sylvain Desjardins, correspondant de Radio-Canada à Paris. Sylvain Desjardins, donc vous êtes là au Bourget, dans un milieu, je dirais, inhabituel. Peut-être pour vous, vous évoluez en général sur des terrains de guerre, l'Afghanistan, le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique. Est-ce que cet événement mondial, la COP 21, est simple à couvrir ?
Certainement pas. C'est un autre type de terrain d'hostilité, je dirais. Quoique, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant, mais il y a énormément de monde, il y a une profusion d'informations qui nous arrivent de partout. Vous savez, on dit qu'il y a jusqu'à 40 000 participants à cette conférence. Il y a des milliers de journalistes, je ne sais pas les chiffres exacts, autour de 3 000. Il y a énormément de sollicitations qui est faites. Donc, imaginez, il n'y a pas que les délégations des 195 pays, qui d'ailleurs sont parfois très nombreuses. J'ai appris hier que la délégation canadienne compte 250 personnes. C'est une des plus grandes, mais il y en a certainement d'autres comme ça. Donc, il y a ces gens-là, mais il y a les représentants de l'industrie, de différentes entreprises, les ONG, les élus aussi non étatiques. Il y a toutes sortes de regroupements et tous ces gens-là viennent ici, bien sûr, pour contribuer, si on regarde les choses de façon positive, mais aussi pour faire parler d'eux et d'elles. Donc, il y a énormément de sollicitations. Moi, je trouve que c'est une immense foire. En même temps, il faut garder, le focus sur ce qui est vraiment important et sur cette négociation auquel on n'a pas accès. Mais tout ça ensemble, c'est pas très simple. Et je dirais que parfois, je trouve qu'en effet, c'est plus simple d'aller en terrain de guerre où les enjeux sont plus clairement identifiés.
Est-ce qu'il y a une forte demande au Canada d'informations sur cette COP? Sur les enjeux.
Alors j'écoutais les réflexions des collègues en studio tout à l'heure et je me disais, oui, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte d'effet de mode aussi où on y va par cycle. Il y a eu pour nous dans la dernière année ici en Europe, bien sûr, la crise des migrants, les attentats, mais il y avait eu aussi la crise grecque avant. On a l'impression qu'on fonctionne toujours par mode et que là, la nouvelle, eh bien, c'est la COP. Cette conférence sur le climat, on le sait, elle s'en vient, on en parle beaucoup. Et quand on est en France, on sait qu'on en parle encore davantage. Mon sentiment, c'était que tout ça était probablement gonflé, beaucoup plus important en France parce que ça se passe justement en France. Or, je constate que non seulement il y a un nombre record de pays participants et de chefs d'État qui sont venus, mais en ce qui nous concerne, pour répondre à votre question, l'intérêt est maximal au Canada. La demande est très, très grande pour mes collègues et moi d'alimenter très, 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 très fréquemment à chaque jour des articles, des portraits. On veut avoir de l'information sur ce qui se passe ici. Donc, c'est l'intérêt est très, très grand. On pourrait en parler, si vous voulez, davantage, mais c'est lié aussi au contexte politique parce qu'on vient de d'avoir un changement de gouvernement important au Canada. Et ça aussi, disons, la position...
Oui, le premier ministre Trudeau a changé de...
C'est-à-dire que c'est
la
une
façon
position,
d'aborder hein, les questions.
Tout à fait,
hein,
la position est
par rapport au gouvernement précédent.
En tout cas, pour l'instant, le discours est radicalement différent. C'est à 180 degrés avec le gouvernement Harper précédent, qui était plutôt un gouvernement pro-sable bitumineux de l'Ouest. Et donc... qui avait d'ailleurs
plus proche des industries pétrolières peut-être
de l'industrie pétrolière et qui avait même décidé que le Canada se retirait des accords du protocole de Kyoto. Et alors que maintenant, ben là, on est vraiment sur un discours, en tout cas, où on dit il faut contribuer et réintégrer, si vous voulez, la communauté internationale sur ces grandes questions.
Alors, Véronique Robérotte de France Culture, qui se trouve à côté de vous, Le Bourget, donc depuis une semaine, je le disais, un peu une tour de Babel. Au total, c'est 40 000 personnes accréditées entre journalistes, délégations.
C'est ça, 3000 journalistes. Alors je voudrais dire que c'est vraiment une COP importante, c'est-à-dire que si on ne parle que climat, effectivement, enfin sur ce sujet-là, en tout cas, c'est un événement quand même qui, avant les attentats de Paris, on a dit effectivement c'est un peu hystérique, c'est lié peut-être aussi au contexte des attentats, tout ça. Non, du tout, les 3000 journalistes, ils étaient accrédités avant ce qui s'est passé donc à Paris, les événements. 150 chefs d'État, en fait, ils étaient prévus qu'ils viennent aussi. Bon, il se trouve qu'ils ont maintenu leur présence au Bourget. C'est complètement inédit. C'est un événement onusien aussi, hein, censé trouver un accord universel sur le climat. Donc, c'est pas rien. L'événement mérite en soi complètement d'être couvert. Va-t-il finir par lasser? Lasse-t-il déjà ça? Peut-être. Sera-t-il décevant aussi, notamment sur ce qu'on est censé en attendre, hein, ce qu'on nous a vendu aussi, un accord non seulement universel, mais juridiquement contraignant sur le climat? Ça c'est une autre histoire. Donc, en tout cas, l'événement en soi mérite complètement d'être couvert par les 3000 journalistes qui sont là et qui s'intéressent effectivement exclusivement à ce sujet du climat. Et va-t-on enfin vers une économie décarbonée qui irait avec les objectifs que se sont fixés les États, pas ici à Paris, mais avant, de limiter la température de la planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'est un grand événement.
Oui, et les délégations sont accessibles à la délégation française. Alors, les ministres français présents font beaucoup de... sont très présents auprès de vous, essaient de vous parler, de communiquer vraiment.
De communiquer. Alors d'un côté Laurent Fabius, de l'autre côté Ségolène Royal, bien sûr, parce que bon, on les voit pas ensemble, mais effectivement ils nous donnent des informations sur l'avancée des négociations, sur la façon dont ils estiment qu'avancent ou pas bien. Généralement ils sont assez optimistes, donc il faut pas voir que la délégation française, il faut voir mais aussi les ONG qui suivent ces négociations à distance, hein, puisqu'elles ne sont pas forcément au sein des négociations, mais elles suivent tout ça de loin. Elles ont parfois des délégués qui leur donnent des informations. Donc, elles nous retransmettent tout ça. Il y a le on et il y a le off. Donc, il faut traîner dans les couloirs, essayer d'attraper des délégués du monde entier. Il faut aller aux conférences de presse aussi. Il y en a eu peu, finalement. Il n'y en a pas eu beaucoup avant hier, avant que ça se crispe un peu. Et il faut vraiment aller à la chasse. Et c'est compliqué parce que cette COP ici, 21 à Paris, est très, très étalée. Et donc, c'est un peu compliqué d'aller à la chasse aux informations.
Véronique Robérotte, Sylvain Desjardins, on vous retrouve dans le cours de l'émission.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
C'est un jour historique que nous vivons. Nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
Voilà, discours de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et François Hollande à l'ouverture de la conférence sur le climat. Le discours de l'ancien président Chirac a marqué les esprits. Et on s'aperçoit qu'à 13 ans d'intervalle, les demandes sont les mêmes, notamment sur la justice climatique. François Sigel, dans l'éditorial que vous signez, vous nous dites qu'il y a des raisons d'espérer. Bon, vous êtes fidèle au journalisme positif de votre revue, mais le reflux salvateur a démarré, vous nous dites.
Oui, le reflux salvateur, c'est ce qu'on oublie et ce qui est peut-être pas suffisamment présent au Bourget, c'est quand même la société civile. Et la société civile, globalement, elle avance, je dirais, de son côté. Hein, je dirais, elle est un peu oubliée dans les négociations du Bourget. Mais pourquoi on a l'impression que ça avance? Parce que globalement, le réchauffement climatique commence aussi à toucher le portefeuille. Alors, touche le portefeuille de qui? Touche le portefeuille des grands fonds de pension, touche le portefeuille, je dirais, des industriels. Et globalement, ces gens-là n'aiment pas perdre de l'argent. Et globalement, ils se disent que s'ils continuent à investir effectivement dans les industries d'hier, bah, globalement, ils pourront plus fournir leurs avoirs. Et on voit quand même que là, dans ce domaine, c'est en train de bouger, qu'un certain nombre de grands fonds de pension internationaux commencent effectivement soit à déprécier leurs avoirs effectivement dans les énergies fossiles, comme c'est le cas de l'énergéticien E.ON en Allemagne, le plus grand fonds de pension de toute l'Europe, je dirais du Nord, a désinvesti des énergies du carbone. C'est, il y a pas longtemps, à une conférence de Davos, le PDG de Coca-Cola qui disait alerte, alerte, il y a plus d'eau. Alors, il y a plus d'eau pour la planète, mais il y a plus d'eau pour faire du Coca-Cola. Donc, globalement, comme l'industrie et la finance est touchée au portefeuille et qu'il faut de l'argent pour financer, je dirais, la transition énergétique, bah, je dirais, ça serait bien que la finance se mette en place, et ce qui m'a permis de déceler une petite lueur d'espoir.
Patrick Pirot de Politis. Lueur d'espoir aussi
Oui, lueur d'espoir. Nous avons une attention particulière à ce qui se passe au sein de la société civile, et notamment, elle a été fortement bousculée à l'occasion de cette COP21, puisque l'état d'urgence a d'abord consisté, dans la voie de Manuel Valls, à dire « nous allons restreindre l'événement de la COP aux seules négociations ». Ce qui voulait dire annulation de tout ce qui se passe autour. Et il se passe énormément de choses. La société civile s'est énormément mobilisée à l'occasion de cette conférence. Et donc l'annulation ou l'interdiction de manifester le samedi 28 et le dimanche 29 dernier a suscité énormément d'émoi. D'abord un peu de stupéfaction parmi ces organisations. Et puis après, ils ont repris du poil de la bête et ils sont allés discuter. Et ils ont discuté en faisant monter le discours, en disant « mais état d'urgence, mais est-ce que nous ne sommes pas dans un état d'urgence climatique qui mérite que l'on ne passe pas nos tours cette fois-ci ? Et si la voix de la société civile ne se fait pas entendre à cette occasion, quand se fera-t-elle entendre ? Et par ailleurs, comme tout le monde dit aujourd'hui, jusque les industriels, les politiques, dit que tout le monde doit contribuer, y compris la société civile, que c'est un pilier essentiel parce que il y aura les décisions gouvernementales, il y aura les entreprises, mais il y aura chacun chez soi, dans son quartier, dans son domicile, devra pouvoir faire quelque chose. Eh bien, si à l'occasion de cette COP-là, on étouffe la voix de la société civile, est-ce qu'on n'est pas en pleine contradiction? Alors que ce qui peut apparaître comme l'ébauche, l'émergence d'un mouvement social depuis un an en France, était prête à apporter une contribution très importante. Et donc, à cet endroit-là, nous constatons que la société civile s'est énormément coalisée. Les personnes, les gens qui, depuis plusieurs années, sont sur le terrain de la justice climatique, c'est-à-dire que les pays du Sud, qui ont pratiquement pas contribué au dérèglement climatique, soient ceux qui payent le plus, on ne considère pas leur point de vue et qu'on ne les aide pas, c'est profondément injuste et on n'est pas du tout dans l'équité. Et de l'autre côté, les environnementalistes qui, eux, s'occupent classiquement de la planète, des milieux, etc. Ils se sont retrouvés depuis Copenhague, ça a déjà commencé, mais là c'est très très fort. Je veux dire, les discours sont devenus très cohérents. Et donc ça, c'est un signal qui est positif. Et ce qui s'est joué à l'occasion du climat, de la période sécuritaire qui s'est installée, évidemment, a suscité beaucoup d'émoi. Et donc je pense qu'on en reparlera après la COP.
Walter Bouvet, fait nouveau, il y a aussi des financiers, des banquiers qui participent des ministres des Finances qui participent à cette COP21. Est-ce que ça, selon vous, c'est positif parce qu'ils ont les moyens d'agir?
C'est la traduction de ce qu'a expliqué François Siegel à l'instant. Il y a une ONG qui a commencé à pointer son nez à Copenhague, qui s'appelle 350.org. Une ONG américaine qui s'est engagée depuis un an ou deux dans un lobbying intense avec la complicité assumée et, à mon sens, admirable du Guardian, qui est probablement un des titres de presse au monde les plus en pointe sur ces sujets, les plus sérieux sur ces sujets, pour une campagne de désinvestissement dans les énergies fossiles, en faisant pression d'abord sur la fondation Bill et Melinda Gates pour que les actifs de la fondation quittent progressivement les énergies fossiles, mais aussi fait intéressant, sur la fondation qui détient le Guardian, puisque le Guardian est détenu par une fondation, pour qu'elle-même fasse le ménage dans ses actifs et dans ses avoirs, avec cette ONG. Et puis, le rédacteur en chef s'est adressé au public, à son lectorat, en disant « Bah, moi, je vais partir à la retraite, puisqu'il a quitté depuis peu, mais sans doute que dans mon analyse, dans ma vision de la société et de l'actualité, je n'ai pas suffisamment réussi à faire la jonction entre tous les thèmes. Or, ce sujet de la finance responsable sont des sujets majeurs pour nous. » Et donc, ils ont le Guardian, avec 350.org, a entamé une campagne d'une cohérence admirable. Et ça, ça produit des résultats, puisque depuis un an, c'est 2% à peu près des investissements dans les énergies fossiles qui ont été dégagés et qui sont retirés, dont le fonds norvégien des retraites, dans un pays où traditionnellement les énergies fossiles, le gaz et le pétrole notamment, sont quand même au cœur du sujet. Donc oui, il y a un mouvement qui s'est enclenché, qui est encore timide, vous pouvez me dire 2% c'est rien, mais quand on voit l'énergie qu'il faut pour faire bouger la planète finance, se dire qu'en un an, il y a 2% qui ont quitté ces énergies, c'est colossal. Et si la dynamique se poursuit, alors il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une tension en ce moment, et cette tension est salvatrice.
François Sigel et Patrick Piron ensuite.
Vous juste une petite je rajoute. En mai dernier, à Lima, lors de la séminaire de préparation à la COP21, effectivement, il y a eu quelque chose qui ne s'est jamais passé avant dans le monde, c'est que le FMI et la Banque mondiale ont tenu effectivement ensemble une grande session totalement dédiée au climat. Voilà, c'est juste encore un indicateur de dire que du côté de la finance, les choses étaient peut-être en train de bouger.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Marie Darigrand, les mots et la COP, climat, réchauffement climatique, quelle est la signification de climat d'abord avant tout ?
Le climat, c'est un très vieux mot grec qui n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'on l'a emprunté, il n'a pas bougé depuis les Grecs, et il désigne la voûte du ciel. C'est précisément ce qui ne doit pas bouger, il ne faut pas trop y toucher. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est un mot qui n'est pas lié au temps. C'est un mot lié à l'espace.
Et je très pense poétique. Alors, est-ce que le climat est un bon thème pour les médias ?
Les médias ont un problème avec le climat parce que précisément, les médias vont très vite, hein, surtout aujourd'hui. Il n'y a pas de médias sans temporalité. Ça bouge, il y a du temps. Or, le climat tel que nous le représentons, c'est précisément ce qui doit être immuable, en quelque sorte. C'est ça dont on a hérité, y compris dans la langue anglaise, qui a repris aussi le mot grec. Donc, je pense que ça participe, hein, sur un plan, disons, psychosociologique, de notre difficulté à introduire du temps. Alors là, aujourd'hui, quand il y a des événements comme la COP, au contraire, là, on voit les journalistes faire leur travail d'historicisation et tout va très, très bien. Mais je crois que c'est une des dimensions très difficiles. C'est que soit il n'y a pas de temps, soit le temps est vraiment très très long. Comment s'intéresser à quelque chose qui finalement arrivera dans 50 ans, 60 ans, etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une difficulté inhérente à la manière dont nous représentons la notion même de climat. Ce qui est en train de bouger, c'est que cette substance-là devient un adjectif. Donc quand on a urgence climatique, quand on a justice climatique, quand on a état de guerre climatique quasiment, eh bien, je pense qu'on est en train là de passer de quelque chose d'immuable, d'une essence, à quelque chose qui va exister.
Parce que vous parliez de guerre climatique, mais c'est vrai que des termes guerriers sont employés dans la presse. État d'urgence pour la planète, le réchauffement climatique est une guerre, comme on peut le lire dans Oui Demain. Il y a aussi ce climat particulier dont il faut tenir compte.
Oui, d'ailleurs, on l'a dit même tout à l'heure, vous l'avez employé, François Sigel, comme ça, parce que c'est dans notre langue. Ouais. Hein, le climat ambiant aujourd'hui, c'est ça le climat finalement. Donc, on l'emploie beaucoup pour la langue politique. Hein, donc, un climat délétère autour des régionales, par exemple, ou un climat d'angoisse autour du terrorisme. Donc, c'est un mot qui devient très générique. C'est notre ère du temps, c'est le climat. Mais parce que c'est ça, finalement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il nous manque un concept pour dire exactement, c'est-à-dire ce que vous expliquez là, la dégradation éventuelle ou, au contraire, la reprise de maîtrise par l'humain, hein, cette façon de se retirer dans certains fonds, etc., hein, qui est à ce moment-là un travail humain, technique aussi, avec le caractère positif de toutes ces actions humaines. On remet du temps et on remet du geste humain.
Walter Bouvet, Terra Eco.
Il y a une chose, c'est qu'on parle de l'anthropocène, c'est-à-dire cette ère où l'humanité est quasiment devenue une force tellurique, qui supplante la nature. Alors involontairement, on a tout déréglé parce qu'on est tellement nombreux et tellement puissants à 7 milliards qu'on devient une force, une force immense à nous tout seuls. Dans ce que vous dites du climat, j'aime bien cette notion de voûte céleste qui est au-dessus de nous. Or là, l'humanité s'est mise au-dessus de la voûte. Elle l'a supplantée, sans le vouloir forcément, mais parce qu'elle a cette force incroyable de tout dérégler. Et il faut se remettre, je pense, sous la voûte, oui. Avec une difficulté, c'est que quand on parle de Daesh, quand on parle éventuellement du Front National, je quitte un peu ma neutralité, on a des adversaires potentiels qui sont très facilement identifiables. Quand on parle du climat, notre adversaire, c'est notre mode de vie. C'est-à-dire, c'est nous. Et c'est ce qui complique aussi l'explication et le passage à l'acte.
Jamiroquai sur France Culture, Emergency on Planet Earth. Il y a d'urgence et on va écouter Nicolas Hulot, l'envoyé spécial de François Hollande pour la planète. Il s'exprimait avant la conférence sur le climat.
C'est un sommet pour la planète, un sommet pour le climat, mais quelque part c'est un sommet pour la paix. Le climat va faire exploser l'extrême pauvreté. Et la pauvreté, où qu'elle soit, constitue une menace pour la prospérité et la paix de tout le monde. On est dans un monde maintenant très réactif, qui est connecté, pour le meilleur ou pour le pire. On peut pas isoler la misère. Faut simplement comprendre, quand vous ajoutez toujours de l'inégalité à l'inégalité, à un moment ou à un autre, c'est ce qui se passe actuellement, on danse sur un volcan. Mais c'est pas une fatalité. Faut simplement partager une vision, faire preuve d'audace, faire preuve de courage. Est-ce qu'on le saura? L'histoire nous le dira. Mais la fenêtre est très étroite. Et le temps est compté. Il y a un moment ou un autre, on sera assis à la table des conséquences. On peut avoir un sursaut. C'est à Paris que ça doit se passer et ce n'est pas après.
Voilà, un sommet pour la paix. Sinon, il faudra s'asseoir la table des conséquences. J'aime bien la formule. On est dans le dur, là, avec ce que nous dit Nicolas Hulot. Extrême pauvreté, les réfugiés climatiques, 22 millions en 2013, 300 millions en 2030. Ce sont des thèmes dont vous parlez beaucoup dans vos journaux respectifs. Walter Bouvet.
Oui, on est dans le dur, il a raison de le dire, et puis il parle aussi d'une fenêtre de tir et de possibilités. Pour donner une connotation un peu plus réjouissante à tout ça, on n'est pas dans la situation où on n'aurait pas de solution. Des idées, il y en a, de l'innovation sociale, sociétale et technologique, parce que c'est forcément un mix de tout ça, c'est pas forcément que la techno qui va nous sauver, il ne faut pas rêver. Il y en a, il y a des possibilités, on a inventé des choses très nouvelles, ou on a remis au goût du jour des choses très nouvelles, comme la permaculture, des modes de déplacement doux, nouvelles façons de produire et de consommer, qui finalement, les énergies renouvelables, qui ne mettent pas tout en cause, qui ne nous obligent pas du tout à revenir à la bougie ou à la caverne, contrairement à ce qui a été dit de façon absolument caricaturale il y a certains temps et qu'on entend heureusement un peu moins maintenant. Et il y a surtout ce qu'il faut expliquer. En fait, il y a un vrai projet de société. C'est-à-dire qu'on peut rassembler enfin des pays, des nations autour d'un projet qui est créateur d'emplois. Je pense que c'est quand même un sujet majeur sur lequel on n'arrive pas à trouver de solution avec les anciennes techniques. Eh bien là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Si on rapatrie les 60, 70 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale énergétique qui partent dans les États du Golfe pour d'ailleurs soutenir certains projets qui nous coûtent cher finalement en vie humaine au final, eh bien si on rapatrie cet argent, qu'on le consacre sur nos territoires, au développement des territoires, par des projets locaux, en circuit court, des énergies renouvelables, il y a de l'emploi, il y a de la transition sociale, il y a de la transition écologique. Bien sûr, il faudra aussi faire migrer, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a un sujet social qui est comment on fait migrer des populations de salariés, d'industries qui demain vont beaucoup souffrir, parce qu'on se réjouit du fait que les industries pétrolières soient un peu mises à mal par la campagne de désinvestissement. Mais derrière, il y a des emplois. Donc ces gens-là, on ne va pas juste leur dire oh, « Vous avez collaboré avec les pétroliers, maintenant bien fait pour vous ». Non, il va falloir leur dire « On va vous accompagner dans cette transition, c'est de la formation, on ne va pas vous laisser au bout du chemin ». Et derrière, il y a un bénéfice pour tous, pour l'environnement, pour nos emplois et finalement pour le vivre ensemble.
François Sigel.
C'est très difficile d'abandonner le XXe siècle. C'est très difficile que le discours politique, effectivement, prenne ça en compte. Vous voyez le président de la République dire à la télévision le soir, mes chers compatriotes, la croissance c'est fini, on va vivre dans un nouveau monde, etc. Voilà, on est obligé d'être dans la promesse. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à abandonner ce discours. Ce discours d'une société qui, en plus, a plutôt très bien fonctionné pendant très longtemps avec les dégâts que l'on sait. Il y a aussi des avancées au niveau de la santé. Au niveau de la santé publique, au niveau de la malnutrition dans le monde. Il n'y a pas que du désastre. Mais globalement, voilà, on se retrouve à un changement d'histoire, quoi, qui est incroyable. Manque de bol pour nous, on est en milieu dedans. On est dedans. Alors, il y a deux solutions. Soit on affiche les lunettes qui regardent vers le futur, et puis on essaye de se dire, le futur, on essaye de le construire et je veux en être. Soit on regarde désespérément le passé. Mais c'est vrai que vivre les périodes de transition, c'est vraiment complexe. Et c'est vrai ce que disait Walter tout à l'heure, on va pas dire aux mon pauvre gars qui a construit des voitures pendant toute ta vie, c'est foutu parce qu'on construira plus de voitures. Si, des voitures différentes, etc. Et c'est pour ça que les modèles de nouvelles sociétés, qu'on se pose plein de questions aujourd'hui sur le travail, sur le partage du travail, sur comment est-ce qu'on va demain, sur la fin du salariat, mais le début d'autres formes de rémunération. Voilà, on est en plein dedans. Et quand on est dans les périodes de mutation, on peut pas demander de tout résoudre du jour au lendemain.
Patrick Pirot.
Oui, on est dans le dur et Françoise, presque de manière provocatrice, vous dites manque de bol, je dis mais quelle chance, on est dans une période où on a la possibilité de faire progresser, je dirais globalement, l'humanité, parce qu'il s'agit bien de ça, aujourd'hui c'est ça qui est sur la table, c'est on referme un cycle, celui de la révolution industrielle a démarré au moment de la révolution industrielle avec une notion de progrès limité, de croissance linéaire. Aujourd'hui, tout ça est remis sur la table. Et moi, je suis frappé de constater que depuis peut-être une demi-douzaine d'années, les sciences sociales se sont remis en branle sur ce sujet-là. Moi, j'étais toujours un petit peu dans l'attente de voir, en disant, mais on a là un sujet formidable pour la philosophie, pour la sociologie, pour se prononcer sur ce que nous sommes en train de vivre, et comment réenchanter le monde, les imaginaires, et dire où nous allons en tant qu'humanité. Ça y est, ça a redémarré. Ça arrive un tout petit peu à la traîne d'autres inspirateurs, d'autres pionniers qui étaient plutôt dans le milieu associatif, du côté d'une mouvance comme la décroissance, etc. Mais aujourd'hui, ça y est, nous détenons entre nos mains, au sein de l'intelligence humaine collective, les moyens d'y parvenir. C'est pas une question de technologie. C'est quelque chose qui est du ressort de l'intelligence collective, politique, les modes de vie, etc., etc. Donc, ça nous appartient.
Retour au Bourget avec Sylvain Desjardins de Radio-Canada. Sylvain Desjardins, c'est votre double regard que je trouve aussi intéressant. Est-ce que selon vous, l'Europe, dans ce que vous avez vu en France, en Allemagne, sur le continent, est-ce que nous sommes plus sensible ou moins sensible que l'Amérique du Nord à toutes ces questions d'environnement, d'écologie?
Moi, ce qui me frappe, c'est l'importance quand même qu'on accorde aux énergies renouvelables en Europe. J'arrive d'un voyage en Allemagne, là où je suis allé interroger les gens sur les conséquences de cette décision d'abolir le nucléaire très, très bientôt, pour 2022. Cette décision qui a été annoncée par Mme Merkel à la suite des accidents de Fukushima, avec la conséquence que ça a augmenté la production des centrales au charbon. Mais pour une courte période, présumément, enfin, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on dit du côté du gouvernement. Mais ce qui me frappait, c'est tout le monde est convaincu que le mix énergétique doit comporter davantage d'énergie renouvelable. Et il y a déjà du 25-30% qui est accessible à la population. Et ça, moi, ça m'a étonné. Il y a une sorte de consensus et je pense que de ce côté-là, il y a une réflexion qui est plus mature, qui est plus avancée en Europe que ce qu'il y a chez nous. Chez nous, ça reste encore un peu, je dirais, un peu folklorique. Il faut dire peut-être aussi que du coin du pays d'où je viens, moi, c'est l'hydroélectricité. Donc ça, c'est un bienfait de la nature. On a énormément d'eau qui nous sert de manière de produire de l'énergie. Mais dans les faits, il y a beaucoup de centrales au charbon. Il y a beaucoup de nucléaire. Et on n'a pas fait cette réflexion, je dirais, au niveau, en tout cas, de la production des énergies renouvelables, même si on sait qu'il y a des parcs, d'éoliennes, il y a un peu de solaire, mais c'est comme encore un peu folklorique, si je compare à ici, en tout cas, à ce que j'ai vu en Allemagne. Maintenant, en France, c'est un autre débat, parce que le nucléaire permet peut-être d'éviter aussi ou de prolonger l'apathie par rapport peut-être à cette réflexion. Ça, c'est peut-être mes collègues français qui pourraient le dire mieux que moi.
Merci, Sylvain Desjardins. Vous voulez réagir sur le nucléaire en France, François Sigel? Oui, j'ai une question à poser plus politique après. Allez-y, d'accord. François Sigel.
Non, juste l'Allemagne. Alors, c'est vrai que c'est très facile de dire l'Allemagne, ils ont abandonné le nucléaire. Maintenant, regardez, ils nous polluent avec du charbon. Sauf que pendant ce temps-là, ils avancent sur les renouvelables et ils avancent extrêmement vite. Je crois qu'il y a quelques jours, simplement les seuls renouvelables avaient, en hiver, quand même réussi effectivement à alimenter toute l'Allemagne. Donc globalement, ils vont très très vite. Ça, c'est une première. Et puis la situation du nucléaire français, c'est pas facile de se débarrasser du nucléaire. On n'est même pas capable de fermer la première centrale et ça va pas se faire comme ça. Ça, c'est sûr. Mais la situation du nucléaire français est pas non plus géniale. Vous avez vu les résultats d'Areva, c'est une catastrophe absolue. Et l'EPR, je veux dire, globalement, voilà, c'est un gouffre sans fin et on sait même pas si un jour ça verra le jour. Donc là aussi, on commence à se poser plein de questions, même sur l'avenir financier du nucléaire français.
Maria Darigrand, on revient sur les médias qui s'engagent. Est-ce qu'ils sont une aide sur ces questions, pour faire plus sur ces questions d'environnement? Jouent-ils un rôle de médias service aussi? Que puis-je faire au quotidien pour participer, pour mobiliser sur la lutte contre le réchauffement?
Ben, quand on regarde là ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal d'imagination, il y a plein d'idées, mais c'est plutôt des idées narratives ou des portraits de gens qui font des expérimentations, etc. Mais effectivement, cette fonction de service qui est absolument cruciale, qui n'est pas une tradition française, hein, on ne fait pas énormément de choses d'une façon générale, mais on peut dire que là, elle n'est pas très très présente, alors que dans certains endroits des États-Unis, je pense à un site qui s'appelle TechPart et qui reprend des choses à San Francisco en particulier, qui est devenue une ville très très verte, eh bien là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on propose à l'internaute un degré d'action à son niveau. Il peut aller jusqu'à, si vous voulez être vraiment un activiste vert, mais aussi tout simplement à faire quelque chose pour l'eau du robinet. Enfin, vous voyez, donc ça, cette habitude-là d'aider à agir, cet empowerment, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire tout d'un coup, on aide le lecteur, le média consommateur à qui on s'adresse, on lui transfère des compétences et on l'aide un peu à agir. Alors ça s'est fait un peu en France, bon an, mal an, enfin, avec l'alimentation. Maintenant, beaucoup de gens, quand ils le peuvent financièrement,
le bio, oui.
Voilà, il y a cette bascule dont vous parliez, oui. Là, qui s'est faite, mais c'est à partir des représentations, la façon de parler des choses, l'alimentation, pour des thèmes de santé, ça, on voit la bascule. Mais d'une façon plus générale, là, qu'est-ce que je peux faire pour participer à la transition énergétique ou écologique, ça n'est pas tout à fait rempli comme mission chez les médias français.
Merci Mariette Darigrand. Avant de se quitter, le clin d'œil de Yacine Bouzard, qui a travaillé sur le bilan carbone de Karim Benzema.
Le bilan carbone d'un produit ou d'une entité humaine est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Prenons le cas de Benzema. Comment réduire son émission de gaz à effet de serre? Cela passe par une étude scientifique et se traduit donc par les étapes suivantes. Collecte des données.
Cette audition s'est déroulée le 5 novembre dernier face à la juge d'instruction de Versailles, Nathalie Boutard. L'attaquant du Real Madrid affirme qu'il a tenté de prévenir son coéquipier en bleu, Mathieu Valbuena.
Exploitation des résultats.
Un grand sportif se doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là où on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France.
Établissement des pistes d'action de réduction.
Karim Benzema n'a pas convaincu à la télé. Il ne mérite plus d'être sélectionné en équipe de France. 82% des Français le pensent, selon notre sondage BFM TV.
Et enfin, lancement d'action de réduction.
La semaine prochaine, la Fédération française de football pourrait prendre des mesures contre Karim Benzema et il pourrait être suspendu.
La semaine prochaine, nous parlerons des conséquences de l'affaire Tapie sur la courbe du chômage.
Merci Yacine Bouza, merci à tous. L'émission se termine, j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Walter Bouvet, journaliste directeur de la publication de Terra Eco, Patrick Pirot, responsable de la rubrique Écologie à Politis, auteur de La transition énergétique aux éditions Belin. Patrick Pirot, un mot sur la campagne de dons que vous avez lancée à Politis.
Oui, comme beaucoup de médias, la situation est difficile pour nous en ce moment, mais voilà, on a lancé une campagne d'appel aux dons, notamment pour pouvoir gréer correctement un site internet et être sur ce média qui est aujourd'hui indispensable.
François Sigel était avec nous également, fondateur de la revue Oui Demain et en duplex du Bourget. Nous étions avec Sylvain Desjardins, correspondant à Paris de Radio-Canada, et Véronique Roberotte, spécialiste environnement de France Culture. Notre regard extérieur aujourd'hui, sémiologue au secret des sources, Mariette Darigrand. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard. Pour la préparation, la réalisation, le site franceculture.fr, et avec aux manettes aujourd'hui Anne Herbé. Le clin d'œil de la semaine, on l'a tous dans l'oreille, c'était Yacine Bouzard. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques. Est-ce ainsi que les hommes meurent ? Alain Finkielkraut reçoit Jacques Ricot et Gabriel Ringlet. C'était Le secret des sources sur France Culture. À retrouver sur franceculture.fr, Rembobinage, le journal et répliques. Bonne journée sur Culture.
Je ne suis pas sûr que si la COP21 se déroulait à Marrakech, comme va se dérouler la COP22 l'an prochain, on aurait le même phénomène médiatique.
Tout le monde doit contribuer, y compris la société civile. C'est un pilier essentiel parce que il y aura les décisions gouvernementales, il y aura les entreprises, mais il y aura chacun chez soi, dans son quartier, dans son domicile, devra pouvoir faire quelque chose.
En ce qui nous concerne, pour répondre à votre question, l'intérêt est maximal. Au Canada, la demande est très, très grande pour mes collègues et moi d'alimenter chaque jour des articles, des portraits. On veut avoir de l'information sur ce qui se passe ici.